Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 150, on y est, et toujours avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, 150, on en avait rêvé, on l'a fait, 150 épisodes.
Bon anniversaire Christophe.
Ah ouais, merci, à vous aussi. C'est un numéro marquant, et d'ailleurs, entre cette deuxième partie d'Europa Voice, on va faire un petit retour sur bien nos points clés, nos petites madeleines de proue, vous en doutez. Bien sûr, on parlera du Brexit, en tout cas la mienne, c'est pour vous faire un petit teaser. Mais là, avant tout, on va parler de la Géorgie, qui est vraiment au cœur du débat européen. Ça pose pas mal de problèmes à l'Europe, tout ce qui se passe en Géorgie. Alors expliquez-nous, il y a une élection et c'est le camp plutôt pro-russe qui a gagné cette élection, ce qui est une vraie épine dans le pied européen.
C'est le rêve géorgien, Christophe, comme son nom d'ailleurs ne l'indique pas. Le rêve géorgien est un parti plutôt pro-russe, comme vous l'avez mentionné, qui a remporté les élections législatives, qui étaient très contestées et qui restent d'ailleurs contestées. Mais après le recompte des votes, il est bien clair que c'est ce parti-là, donc rêve géorgien, du parti au pouvoir actuellement, qui remporte ces élections législatives et donc qui, j'allais dire, ferme temporairement la porte de l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne.
Alors justement, c'est pas des grands admirateurs de l'Europe, hein, ce parti. On va en parler dans quelques instants. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs d'un point de vue européen, de l'Union européenne? Vous venez de le dire, l'adhésion est pour l'instant stoppée. Enfin, en tout cas, la demande d'adhésion est parlement stoppée. Ça avait vraiment un coup d'arrêt à la région, puisqu'on en parlait dans l'épisode précédent. Il y a d'autres pays comme la Moldavie. Il y a des pays comme bien sûr l'Ukraine. Il y a des pays qui vraiment souhaitent intégrer l'Union européenne le plus vite possible. La Géorgie, qui d'ailleurs avait vu pas mal d'échauffourées il y a quelques temps aussi dans ses rues. C'est assez volatile en Géorgie, mais en tout cas, ça met un vrai coup d'arrêt dans cette zone du monde pour l'adhésion au projet européen.
Alors effectivement, Christophe, c'est un résultat d'abord important pour la Géorgie elle-même et pour, j'allais dire, l'influence étrangère de la Russie. Et je mentionne cette influence parce que il y a d'ailleurs une loi qui a été votée, qui était en discussion ces mois derniers sur les ingérences extérieures. Et donc ça avait d'ailleurs donné lieu à de nombreuses manifestations des démocrates et pro-européens en Géorgie. Mais d'abord, c'est un résultat qui est important pour la Géorgie elle-même et pour sa dépendance aux voisins russes. Mais c'est aussi un résultat, effectivement, Christophe, qui est important pour l'avenir, ou en tout cas pour la relation entre la Géorgie et l'Union européenne, parce que la Géorgie a fait une demande d'étude de son adhésion, hein, c'est pas encore une demande d'adhésion, mais d'étude de son adhésion en 2023, évidemment dans la foulée de la guerre en Ukraine. Et là, effectivement, ça met un peu un coup d'arrêt, parce que si l'Europe peut faciliter et étudier un dossier d'adhésion, ça doit venir du pays lui-même. Et il est évident que l'opposition, le parti au pouvoir, pardon, pro-russe, le n'entend pas de cette oreille, ne va pas faire acte de candidature pour adhérer à l'Union européenne. Et donc c'est ça aussi qui est important, c'est qu'à la fois pour le pays lui-même, mais pour ce que ça va avoir comme conséquence entre la Géorgie et l'Union européenne, et notamment le processus potentiel d'adhésion de la Géorgie.
Alors avant de parler de notre ami Viktor Orban, qui a fait un petit peu qui a en tout cas animé le débat ces derniers temps sur cette question-là, qu'en pensent les autres voisins de la Géorgie? Quelles ont été les réactions dans la zone? Parce que c'est vraiment une zone, on le sait, qui est quand même tendue en ce moment avec tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Forcément, les réactions ont été plutôt vives.
Alors,
ou non?
si, les réactions ont été vives. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de nos confrères qui ont titré que les 27 étaient divisés, partagés, embarrassés, même j'ai lu dans Le Monde après les résultats. En fait, effectivement, les 27 ont été embarrassés, mais c'est plutôt les 26 versus le 1, c'est-à-dire Viktor Orban, où on a vu une vraie différence. Les Français, par exemple, les Allemands, etc., effectivement, la plupart des pays veulent attendre le recompte, ou ont attendu en tout cas le recompte, et une position unanime de l'Union européenne pour commenter les résultats des élections. Alors que Viktor Orban, lui, dès le lundi, alors qu'on n'avait pas encore le recompte final des voix, s'est rendu sur place pour féliciter le parti pro-russe, le rêve géorgien. Et c'est intéressant parce que c'est pas simplement l'opposition classique Viktor Orban versus Donc Viktor Orban et sa démocratie illibérale d'une certaine façon versus les 26 autres pays, c'est Viktor Orban à la tête de la Hongrie qui elle-même a la présidence de l'Europe actuellement pour 6 mois jusqu'en décembre face aux autres pays. Et donc Viktor Orban, d'une certaine façon, il parle comme le leader de la Hongrie, mais il parle aussi comme le leader de l'Europe en ce moment, Christophe. Et ça, pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est très important de le comprendre parce que ça met encore un peu plus à mal la crédibilité politique de l'Union européenne quand son leader n'est pas aligné sur le reste des pays et des États membres de l'Union européenne.
Et la pilule, elle doit être dure à avaler à Bruxelles.
La pilule est extrêmement dure, Christophe. Les leaders européens ne sont pas fait attendre pour critiquer la position de Viktor Orban. Mais ça montre encore une fois aussi que ces dernières années, il y a eu de plus en plus de demandes d'adhésion de certains pays de l'Union européenne, dans un contexte d'ailleurs exogène à l'Union européenne elle-même, hein, par exemple le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais ça veut dire que aussi le processus démocratique au sein de l'Union européenne, par exemple la majorité, pas la majorité qualifiée, mais la majorité, c'est quelque chose qui est de plus en plus dur à construire parce qu'on a des pays dont les visions politiques, économiques, sociales, sociétales sont complètement différentes.
L'Europe, c'était déjà un grand écart, mais là, c'est encore un grand écart qui s'agrandit en fait.
C'est vraiment cette... on en revient hein, toujours, hein, c'est une Madeleine de Proust aussi, c'est l'approfondissement versus l'élargissement. C'est à partir de quand on considère qu'on doit d'abord approfondir ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne et les politiques d'intégration de l'Union européenne pour pouvoir accueillir au sein de cette Union d'autres pays. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est, je pense, important de partager avec nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, que il faut qu'il y ait une maturité des pays candidats pour intégrer l'Union européenne. Et il est évident que si un parti, pour un quatrième mandat plutôt pro-russe, remporte des élections législatives, alors maintenant il faut encore prouver que les résultats n'ont pas été truqués, que les urnes n'ont pas été...
C'était ma prochaine question, ça.
Mais il y a quand même... chaque État est souverain. Et donc c'est aussi le choix de la Géorgie de mettre à sa tête un parti anti-européen.
Mais est-ce que justement, et désolé de vous interrompre, mais est-ce que justement tout ça, ça ne renforcerait pas le rêve européen en disant ok, bon, on peut accepter qu'il y ait une certaine souveraineté dans chaque pays, c'est la base européenne, donc du coup, la décision que vous faites au sein de votre pays, ça fait que renforcer ce qui est l'Europe, même si on n'est pas d'accord, c'est pas forcément que tout le monde doit pousser dans le même sens, le désaccord peut aussi renforcer en tout cas le rêve européen ou l'idéologie européenne.
Alors, vous avez raison, Christophe. Le projet européen, ce n'est pas l'uniformisation de chaque pays au sein d'une solution comme ça où tout le monde se ressemblerait. Mais là, le différentiel est trop grand. C'est-à-dire que le parti arrivé en tête en Géorgie est plutôt anti-européen même. Et d'ailleurs, le parti agit en désaccord avec la présidente actuelle Zoura Bichvili, qui elle est plutôt pro-européenne. Donc oui, il peut y avoir des désaccords au sein des pays européens, des visions qui sont différentes. On a longtemps parlé des pays frugaux, de l'Autriche, des pays scandinaves qui ont une vision différente, des pays plus redistributifs au sein de l'Union européenne. On a parlé des pays qui voulaient aider ou qui ont aidé la Grèce au moment de la crise financière versus ceux qui ont plutôt laissé tomber la Grèce. On a parlé des pays qui avaient des prérogatives plus importantes au moment du Brexit que d'autres. Donc, il peut y avoir des différentiels. Mais là, c'est un différentiel de projet, de zone d'influence qui est irréconciliable. Et c'est ça aussi, j'allais dire, le test, les limites pour l'Union européenne. C'est à partir de quel moment on fait rentrer, non pas en tant que État membre, mais en tant que candidat à la candidature, parce que là, on en est à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce que la Géorgie réunit en fait tous les critères pour être candidat? Ça ne veut pas dire qu'elle sera membre, mais qu'elle soit au moins dans le pipeline des candidatures. Peut-être que la Géorgie ne les réunit pas, ces critères-là, et qu'on veut aller un peu trop vite, et qu'on a pris trop prétexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour pouvoir faire entrer dans le cadre des pays qui finalement sont encore trop loin de l'Union européenne. Et ça, c'est aussi une question de maturité politique pour l'Union européenne.
Mais je vais faire l'avocat du diable pour conclure cette partie d'Europa Voice. On l'a déjà vu, ça, dans un tout autre mesure, mais la Turquie, par exemple, avait fait acte de candidature, et puis, bah, avec le temps faisant, ils ont décidé de pédaler en arrière, et qu'aujourd'hui, la Turquie est plus trop intéressée par une adhésion à l'Europe. Donc, c'est pas forcément une nouveauté non plus, en fait.
Non, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que la Géorgie, si le dossier de la Géorgie est accepté, elle pourrait être potentiellement dans les couloirs de l'adhésion à l'Union européenne pendant de nombreuses années. Si demain, imaginons que demain, un gouvernement plutôt démocrate pro-européen est élu en Géorgie, que la candidature et les différents critères sont vérifiés, mais que aux prochaines élections, un gouvernement de nouveau pro-russe est élu, évidemment, le processus d'adhésion et de visionnage de la candidature, lui, sera aussi stoppé. C'est ce qui arrive, vous avez raison, avec la Turquie. Le problème aussi, et je crois que c'est important de le mentionner, c'est que avec ce qui se passe en Hongrie et avec le mal que cause finalement Viktor Orban à la cause européenne, avec cette présidence notamment de l'Union européenne pour 6 mois, ça montre aussi qu'avant qu'un pays rentre dans l'Union européenne, il faut vraiment bien étudier le dossier. Parce qu'une fois qu'un pays et dans l'Union européenne.
Mais pour en sortir, c'est compliqué.
Pour en sortir, on l'a vu avec le Brexit, c'est compliqué. Et c'est même compliqué quand le pays lui-même veut en sortir. Donc, par exemple, là, scénario peu probable, mais si jamais Viktor Orban ne voulait pas sortir, mais que les Européens voudraient sortir Viktor Orban, ce serait quasiment impossible, à moins vraiment d'un manquement aux règles élémentaires. Mais on l'a déjà vu, Viktor Orban, en termes de respect des minorités, de la liberté de la presse, il y a déjà eu beaucoup, j'allais dire, de dépassements. Et pourtant, la Hongrie est et restera certainement pour toujours dans l'Union européenne. Et donc ça aussi, c'est un défi pour l'Union européenne. C'est oui à l'élargissement, parce que c'est une guerre d'influence, notamment par rapport à la Russie, mais à un élargissement sur des pays qui partagent un socle de valeurs en termes d'état de droit, en termes de liberté de la presse, liberté religieuse, liberté des minorités.
Mais et dernière question sur ce sujet, est-ce que le danger, il n'est pas aussi sur le fait que, admettons que la Géorgie décide de continuer vers une demande d'intégration européenne, ça pourrait être un cheval de Troie parfait pour Moscou. Et ils sont forts en cheval de Troie, les Russes.
Ah bah c'est intéressant parce que la présidente d'ailleurs géorgienne a déclaré que il y a eu des preuves d'ingérence étrangère, mais qu'il est trop dur d'accuser directement le gouvernement russe. Donc c'est exactement ça. Il y a un cheval de Troie.
Je me mouille, mais pas trop.
Voilà, mais on voit pas d'où vient le cheval. Donc c'est aussi ça, effectivement, le risque, c'est d'avoir des pays qui sont pas alignés, encore une fois, totalement sur les valeurs de l'Union européenne. Mais je veux dire, même sans aller dans ce scénario-là, pour faire partie de la construction européenne, il faut être foncièrement convaincu. Et de toute façon, avec l'arrivée du rêve géorgien, qui encore une fois pour nos auditeurs, le rêve géorgien est un parti pro-russe, ça paraît contradictoire, mais c'est un parti pro-russe, justement le rêve géorgien, le rêve d'indépendance géorgienne loin de l'Union européenne, pour l'instant c'est ce parti qui est au pouvoir pour un quatrième mandat, et donc l'adhésion, que ce soit d'ailleurs à l'Union européenne mais également à l'OTAN, semble pour l'instant s'éloigner pour la Géorgie.
Absolument, affaire à suivre en tout cas sur la question géorgienne dans les semaines à venir. On fait une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie d'Europa Voice.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
De retour dans Europa Voice pour notre deuxième partie. Je vous le disais, 150e épisode. Aujourd'hui, c'est un peu un anniversaire. Et on s'est dit avec Nathanaël, pourquoi pas revenir sur quelques éléments clés de ces 150 derniers épisodes. On a fait un petit choix des sujets marquants. Bon, bien sûr, bien entendu, je vais débuter, hein, parce que c'est simple pour moi. Mais le Brexit, ça a quand même vraiment habillé notre Europa Voice pendant plusieurs mois, voire près d'une année, je pense, voire plus. Ce sujet du Brexit aujourd'hui, est-ce qu'on a tourné la page du Brexit? Où l'Europe en est-elle aujourd'hui dans ce 150e épisode donc d'Europa Voice? Où en est le Brexit?
Alors effectivement, le Brexit a beaucoup occupé nos premiers numéros d'Europa Voice, notamment. On suivait d'ailleurs
Débats au Parlement, c'était
à la Chambre.
À 2h du matin, on se textait pour dire, oh, il a dit ça.
Et c'était intéressant parce qu'en fait, on analysait aussi la construction européenne dans tout ce qu'elle a de plus beau. C'est-à-dire à la fois les textes, l'esprit des textes européens, mais aussi les incertitudes.
Parce que c'était de l'analyse de construction dans la déconstruction.
Bah oui, non, mais c'est aussi c'était un once a lifetime. Enfin, c'était la première fois que ça arrivait. Donc, on vivait en fait, on analysait et on vivait l'histoire en même temps. Et ça, je crois que nos auditeurs nous l'ont beaucoup partagé. C'est ça aussi qui était intéressant, c'est que l'Union européenne, elle est vivante. Et le Brexit a montré que l'Union européenne, elle est vivante parce qu'elle doit s'adapter aux affres du temps et elle doit s'adapter aux événements qui arrivent pour la première fois de manière unique. Et puis l'autre chose aussi qui était intéressante pour moi, en tout cas dans cet épisode du Brexit, c'est qu'on allait dans le détail des possibilités, notamment les nombreux débats sur le backstop
irlandais.
Comment ça pourrait marcher, expliquer aussi, faire la pédagogie. Un de nos créneaux, Christophe, je crois, c'est faire la pédagogie de l'Europe. C'est essayer de rendre l'Europe accessible dans une émission, un podcast conversationnel où on embarque l'auditeur avec nous. Il a l'impression de participer à une conversation.
Ça, c'est le pitch pour l'ascenseur.
Ça, c'est le pitch pour l'ascenseur. Mais le Brexit, ça nous a permis de le faire aussi. Parce que de prime abord, c'était compliqué. C'était technique, c'était compliqué, c'était des fois bureaucratique.
Rébarbatif, à la base.
Eh bien, on a essayé de le rendre
sexy.
sexy, de le faire comprendre, d'expliquer les différents scénarios. Et puis, ça nous est remonté aussi l'histoire de l'Europe, avec notamment le backstop irlandais, la question des deux Irlandes, la question des accords de libre-échange, justement, et du fait que les produits, s'ils arrivaient par la porte, Irlande du Nord versus Irlande. Enfin, ça nous permettait aussi.
Et puis, même les alliances, quand on réfléchit, les alliances d'un pays avec un autre, ça, c'était une espèce de château de cartes aussi.
Oui, ça nous a montré aussi les différences au niveau des pays européens dans l'approche par rapport à ce Brexit. Je dirais que c'est pas fini. Alors, c'est pas fini parce que d'abord, Michel Barnier, notre monsieur Brexit, c'est le premier
ministre. Qu'on a eu d'ailleurs en invité dans cette émission.
Qui nous a fait l'honneur de venir et qui d'ailleurs avait fait un tour en Australie pour expliquer un petit peu ce qu'il avait fait en tant que monsieur Brexit. Mais c'est pas fini parce que le monsieur Brexit, il est quand même à la tête du gouvernement français. Et puis c'est pas fini parce que on l'a bien vu avec Starmer et puis on le verra avec les autres et les prochains premiers ministres conservateurs ou Labour. La position du Royaume-Uni sur le Brexit, elle peut encore changer.
Même si honnêtement, la position des gens a changé, on peut débattre que la position des gouvernements n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas eu un mouvement de réintégration. Aujourd'hui, on le fait à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on a voté pour ça, on vit avec. Il n'y a pas vraiment un mouvement de réintégration. Même si dans la réalité des choses, quand on va parler aux gens dans la rue, je suis certain qu'il y a une majorité de gens qui souhaiteraient être réintégrés.
Alors, vu le mess, en mauvais français, en bon anglais,
le bordel, on peut le dire.
Que ça a mis pour faire un Brexit, je ne sais pas quel sera le politique britannique, même s'il en est foncièrement convaincu, qui va prendre avec lui le poids de la responsabilité pour réintégrer ou en tout cas demander la réintégration à l'Union européenne. Je crois que c'est
le
aussi
mot,
ça.
C'est un Brentry, hein. C'est une Brentry, tu vois.
Non, exactement. Donc c'est ça aussi, mais c'est un sujet dont on va parler parce que aussi on n'est pas à l'abri non plus, un peu moins d'ailleurs en ce moment, Christophe, mais on a parlé d'Italxit dans ces numéros de Paris.
Même d'un Frexit.
On a parlé d'un Frexit. On a parlé d'un Dexit.
Ouais, pour les Néerlandais.
Les Néerlandais, d'un Deutschit. Donc, c'est des termes qui ont un peu moins maintenant, mais qui ont fleuri, en fait, les quelques mois après le Brexit. Donc, l'Europe est consciente que c'est possible aussi. Ça n'a jamais été fait. Maintenant, c'est possible. On parle moins de l'Europe des 28-1. Maintenant, on est passé à l'Europe des 27. Mais c'est aussi un précédent, là, pour le coup, d'un point de vue plus juridique. Ça a créé un précédent à l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est possible. C'est compliqué, c'est technique, c'est difficile.
Mais on sait faire.
Mais on sait faire maintenant.
Absolument. Et pour vous, alors, quel était un des sujets marquants, si ce n'est que le Brexit?
Moi, je crois que de ces 150 premiers épisodes, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la capacité qu'on a eue collectivement à Europa Voice, SBS, de raconter des élections nationales dans certains pays d'Europe dont on parle moins. J'ai en tête la Slovaquie, le Portugal.
La Moldavie, la semaine dernière.
La Moldavie, la semaine dernière. Et ça, je crois aussi que c'était un grand bonheur de partager ça avec nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS. C'est d'essayer aussi de sortir du couple franco-allemand. Alors, on l'a beaucoup dit d'ailleurs, c'est plus un couple pour les Français que pour les Allemands. Mais voilà, on a nos usual suspects, les Français, les Allemands, avant les Britanniques.
Les Italiens, certaines mesures.
Viktor Orban. Et on a un tas d'autres pays, une vingtaine d'autres pays dont on parle moins. notamment tous ces pays d'Europe de l'Est.
Et bizarrement, même la Belgique, qui est quand même au cœur du projet européen, on n'en parle pas beaucoup, de la Belgique.
Ah, c'est peut-être compliqué, Christophe, de commenter les gouvernements en Belgique.
Ouais, enfin, ça va trop vite.
Mais voilà, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir on a parlé des Croates aussi, mais voilà, à essayer de raconter, de mettre en avant les enjeux de ces différents pays. Qui ont des fois une impression d'avoir un manque d'amour des autres pays européens dont on parle moins. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que la construction européenne, elle gagnerait justement à capitaliser sur ce qui se passe un peu dans ces pays-là. Ne l'oublions pas, hein, on a mis à peu près une cinquantaine d'années à passer de l'Europe de la communauté économique de charbon et d'acier à l'Europe des 15, alors qu'on a mis simplement 10 ans à passer de ces 15 à 25.
Moi, je me rappelle encore quand l'Espagne et le Portugal sont arrivés, c'était en 86 et c'était l'Europe des 12.
Et on a eu dans les années 2000 et la fin des années 2000 une vague d'adhésion justement de ces pays d'Europe de l'Est et du Sud, Malte, Chypre, mais aussi les pays
Pologne.
Voilà, d'Europe centrale. Et je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire à raconter l'Europe du point de vue de ces pays-là. Et on a beaucoup aussi à apprendre de ces pays-là. Parce que l'avenir, en fait, de l'Europe, il est à l'Est. À l'Ouest, c'est fait. Mmh. À l'Ouest, il nous reste quoi ? Il nous reste d'ailleurs la Suisse. Et on a beaucoup parlé des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Mais il ne reste plus grand-chose à l'Ouest. Alors que l'avenir de l'Europe... parler en première partie de cette émission avec la Géorgie. On a parlé la semaine dernière avec la Moldavie. On a parlé les épisodes précédents avec l'Ukraine.
Ouais, la Macédoine du Nord, il y a beaucoup.
Exactement, l'avenir de l'Europe est à l'Est. Et donc, je crois qu'on a intérêt aussi à raconter les succès, les échecs, les questionnements de cette Europe à l'Est. Et ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire à vos côtés, de raconter ces élections dans ces différents pays.
Et je vais en rajouter un pour conclure. C'est vrai que le Covid a quand même beaucoup animé tout ce qui était l'actualité et la vie de tout à chacun. Ça a beaucoup animé Europa Voice aussi, parce que il y a eu toutes les phases du Covid, de l'attente, de la pandémie, de l'après-pandémie. Mais je me rappelle foncièrement que nous avions eu un épidémiologue que vous avez trouvé qui est basé en Israël et qui nous avait fait vraiment, si on retourne sur l'interview aujourd'hui, vous la réécoutez, il est vraiment pas loin d'avoir eu totalement raison sur le nombre de morts, sur le nombre de victimes, sur comment la pandémie allait se dérouler. Et ça, on l'a eu au tout début d'Europa Voice.
C'est vrai, on a eu la chance d'avoir ce biologiste pour nous parler de la pandémie de Covid. Et je dirais deux choses sur ça. D'abord, la pandémie nous a aussi permis pour le coup, de dire bravo à l'Europe. Parce que la réponse européenne à la pandémie...
C'était un exemple
de coordination des pays de l'Union européenne. On sait souvent, on critique souvent l'Europe pour avoir des positions différentes, ne pas pouvoir avancer. Pour le coup, sur la pandémie, sur l'approvisionnement vaccin, la réponse de l'Europe, et là, rendons hommage aussi au président français premier mandat, la réponse et le lead d'Emmanuel Macron, pour le coup, sur cette réponse à la pandémie.
Le fameux « quoi qu'il en coûte ».
Exactement, était assez incroyable. Et puis, donc c'était à la fois historique et assez agréable de pouvoir commenter les succès de l'Europe. Et pour revenir sur les invités, ça me permet aussi de dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à recevoir de manière régulière, un peu espacée, mais régulière, plein d'invités prestigieux pour nous parler du cinéma et de la culture européenne, pour nous parler de l'Europe avec les ambassadeurs. Là, on a parlé de la pandémie. On a eu, voilà...
Anne Genetet, qui est un ministre de l'Éducation en France aussi.
Donc, on a eu notre ministre de l'Éducation. On a eu, comme ça, une petite dizaine d'invités qui nous ont fait aussi le plaisir de partager leur vision de l'Europe sur plein d'aspects. Donc, c'est un appel ouvert aussi, hein, si des gens se sentent légitimes de venir
nous parler
sur Opérance. Nous les acceptons avec plaisir.
Et on va arrêter de s'auto-congratuler. Merci Nathanaël, c'est un vrai plaisir de faire ces 150 premiers épisodes, comme vous l'avez dit, avec nous. Et puis, on repart pour 150 nouveaux épisodes ensemble.
Allez, upwards and onwards.
C'est parti.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.